Bonjour, samedi 30 novembre, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Notre route nous conduira cette fois en Afghanistan et à Hong Kong, par exemple, et nous allons aussi beaucoup parler de la situation au Sahel après la mort de 13 soldats français au Mali. Nous sommes en compagnie de Sédic Abba, journaliste spécialiste de cette région. Il vient d'écrire « Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne ». Une semaine d'actualité donc, à retrouver aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, l'application RFI 100% Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Et avant d'écouter Sédic Abba, arrêtons-nous à Strasbourg, où la nouvelle commission européenne de l'allemande Ursula von der Leyen a obtenu mercredi un large soutien du Parlement européen lors de son vote d'investiture. Reportage de Juliette Gerbrand.
Première femme à diriger l'exécutif de l'Union européenne, Ursula von der Leyen veut faire de son mandat un tournant. Mais dans une Europe rongée par les crises et le doute, comment convaincre que le progrès sera au rendez-vous? À cette question, la présidente évoque quelques-unes de ses priorités.
Je voudrais bien que cette Europe sera le premier continent qui est carbone neutre en 2050. Je voudrais que l'Europe ait du succès dans le numérique et que l'Europe soit positionnée entre les meilleurs du monde en ce qui concerne l'économie et le social.
La présidente devrait annoncer rapidement l'obligation pour chaque État de fixer un salaire minimum équitable. Sur la préservation de la planète, elle veut entraîner les citoyens et faire de l'Europe un leader technologique.
On veut tous vivre dans un monde, dans une Europe avec un environnement qui va bien. Et pour ça, je crois que beaucoup de gens vont accepter de changer un peu. Et deuxièmement, si nous sommes les premiers en Europe qui développent les technologies pour sauver cette planète, nous allons avoir une forte base industrielle pour l'avenir, parce que nous allons être les exporteurs de ces technologies modernes qui sont nécessaires.
De nombreuses initiatives doivent être annoncées dans les 100 premiers jours, a promis Ursula von der Leyen. Rendez-vous donc début mars pour savoir si les promesses sont honorées.
Sédic Abba, il nous faut partir cette fois en Irak avant d'entamer notre conversation. Le pays a vécu jeudi l'une de ses journées les plus sanglantes en 2 mois de contestation contre le pouvoir, avec 37 manifestants tués dans la répression et des violences principalement dans le sud où des institutions dont le consulat d'Iran ont été attaquées. Depuis le début du mouvement de contestation qui réclame, rappelons-le, la refonte du système politique et le renouvellement d'une classe dirigeante jugée corrompue, plus de 400 personnes en grande majorité des manifestants ont été tués et quelques 15 000 blessés. Pas sûr que la démission du Premier ministre calme ces manifestants. À Bagdad, Lucille Wasserman a fait un point sur ce soulèvement meurtrier.
Le mouvement gagne du terrain en Irak. Ces derniers jours ont été particulièrement violents et ont remobilisé une partie de la population. Dans le sud du pays, des nouvelles villes ont ainsi été le théâtre de manifestations en début de semaine. Partout, les protestataires adoptent la même stratégie, ils coupent les routes, bloquent les administrations ou les écoles et tentent de paralyser l'économie pour se faire entendre, disent-ils. Les imposantes colonnes de fumée noire causées par les pneus brûlés par les manifestants ne disparaissent que rarement dans le ciel de ces provinces du sud. À Bagdad, le mouvement a repris de l'ampleur également. Le centre-ville de la capitale irakienne est aujourd'hui coupé en deux. D'un côté, la place Tahrir revêt une ambiance festive où la distribution de nourriture et les concerts attirent même les familles. De l'autre, sur les ponts et dans la rue Al-Rachid aux abords de la place, les manifestants affrontent les forces de l'ordre et donnent des airs de ligne de front à cette rue historique de la capitale irakienne. Ici comme dans le sud du pays, les forces de sécurité font usage de grenades lacrymogènes contre les protestataires, voire même de balles réelles, selon des témoins sur place.
À suivre dans nos journaux. D'autre part, des accrochages ont émaillé lundi soir au Liban, des rassemblements organisés par la population qui rejette elle aussi les dirigeants au pouvoir. Population déterminée à poursuivre ce soulèvement inédit malgré de violentes attaques des partisans des partis chiites, Hezbollah et Amal.
Thank you.
Bonjour Sedi Kaba.
Bonjour Pierre-Edouard.
Merci d'être à ce micro. J'ai voulu vous inviter une nouvelle fois, comme nous le faisons régulièrement, et c'est un plaisir pour nous, pour parler notamment de la situation au Sahel, région dont vous êtes un spécialiste. Je rappelle que vous venez d'écrire « Voyage au cœur de Boko Haram », enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, livre publié aux éditions L'Harmattan. On va en parler un peu plus loin dans cette émission, mais d'abord un commentaire sur la situation globale dans cette région du monde aujourd'hui.
Oui, j'ai moi-même grand plaisir à vous retrouver et à retrouver vos auditeurs. Je pense que par rapport à la situation en Irak, il faut dire que vous avez d'ailleurs fait le lien avec le Liban. Que ce soit en Irak, en Algérie ou au Liban, nous sommes face à des contestations un peu spontanées qui n'ont pas de leader et qui posent des problèmes aux autorités parce que par le passé, il suffisait de décapiter la tête des mouvements, des leaders, et puis la contestation s'éteint. Mais dans le cas d'espèce que nous avons, il n'y a pas de leader affirmé, il y a plusieurs leaders, donc du coup, les pouvoirs n'arrivent pas à venir à ce bout de cette contestation simplement avec la répression. Et dans le cas spécifique de l'Irak, on a vu que la contestation a aboli, a effacé les clivages confessionnels. Il y a les chiites, il y a les sunnites, tous sont engagés. Elle a aboli aussi les clivages générationnels parce qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des moins jeunes, etc., qui participent à cette manifestation qui vise justement à avoir plus de justice sociale. Comme vous savez, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Irak, c'est des pays producteurs de pétrole et la répartition de la richesse nationale n'est pas évidente. Dans le cas de l'Irak, on voit que une bonne partie, et même de l'Algérie, une bonne partie de la manne, une bonne pétrolière, une bonne partie des ressources pétrolières est capté par l'élite. Et c'est pour mettre fin à cette forme de kleptocratie, à ce système qui consiste à faire main basse sur les richesses nationales que les gens sont dans la rue. Et je pense qu'il est à craindre que le bilan humain soit encore plus lourd, puisque face à ces contestations-là, la seule réponse du pouvoir, notamment en Irak, c'est la répression. Et pour le sujet, ce qui concerne l'investiture de la nouvelle commission de l'Union européenne, je crois que, par exemple, du point de vue africain, il y a une forte attente parce que l'Union européenne est un partenaire stratégique du continent africain. Et pendant très longtemps, l'Union européenne s'est spécialisée en Afrique dans la construction de routes. Et ça a apporté une valeur ajoutée parce que qui dit infrastructure routière dit aussi développement économique, dit aussi mobilité des citoyens. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de regards. Et comme c'est la première fois qu'une femme prend la tête de la Commission, peut-être qu'elle va poser encore plus de passerelles entre l'Europe et l'Afrique parce que jusqu'ici, et malheureusement ces derniers temps, il y avait une perception un peu, à mon avis, flouée de l'Afrique qui a été plus perçue en Europe comme le point de départ des flux migratoires plutôt qu'un partenaire économique avec lequel il faut faire des deals.
Alors je reviens au Sahel. Merci d'avoir commenté cette actualité en Irak et à Strasbourg, en l'occurrence pour cette investiture de la Commission européenne. Globalement, en deux mots, on va en reparler tout à l'heure. La situation au Sahel vous semble plus désespérée que jamais ou
En septembre de cette année, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général, M. Guterres, s'était inquiété de la dégradation de la situation au Sahel.
D'ailleurs, on l'avait écouté et entendu dans cette émission.
Exactement. Ouais. Entre le moment où il s'est exprimé et aujourd'hui, la situation s'est dégradée, notamment avec le lourd bilan humain qui a été payé par les armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, et puis la métastase qui est en train de prendre, parce que ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette menace est en train de gagner territorialement du terrain. Et par exemple, quand on prend le cas du Burkina, c'était parti de la partie sahélienne du Burkina. Aujourd'hui, le nord, l'est, le centre sont concernés. Au Mali aussi, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter que la métastase ne se développe encore sur le continent.
On va bien sûr y revenir dans un instant.
Sept jours dans le monde.
Direction l'Afghanistan maintenant, Sedi Kaba. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé jeudi, lors d'une visite nocturne surprise sur une base américaine en Afghanistan, que les négociations avec les talibans interrompues en septembre avaient repris à Kaboul hier. Sonia Ghazali.
So I want to thank you and I want to thank the Afghan soldiers for Donald Trump, debout sur une estrade face à un parterre de 500 soldats américains, c'était hier soir sur la base aérienne de Bagram. Le président des États-Unis a remercié ses soldats ainsi que les troupes afghanes pour leur engagement. Cette visite en Afghanistan est la première du président américain depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche en janvier 2017, tout un symbole pour les 13 000 soldats américains déployés en Afghanistan dans le plus long conflit de l'histoire des États-Unis. Le président afghan Ashraf Ghani se tenait également sur l'estrade lorsque Donald Trump a annoncé la reprise des pourparlers de paix avec les talibans. Des discussions sont en cours, a déclaré le président américain. Les talibans seraient même en faveur d'un cessez-le-feu, veut-il croire. La reprise des pourparlers qu'il a interrompue en septembre dernier intervient après la libération de deux otages il y a un peu plus d'une semaine. Des universitaires, l'un américain, l'autre australien, ont été libérés contre trois prisonniers talibans de haut rang. Donald Trump a réaffirmé son intention de retirer progressivement ses troupes du pays. L'objectif est de parvenir à réduire le contingent à 8 600 soldats. En Afghanistan, cette visite surprise est largement perçue comme la réaffirmation du soutien des États-Unis au gouvernement afghan et aux troupes afghanes.
À suivre, évidemment, dans nos rendez-vous d'information. Partons pour Hong Kong. Maintenant, Sedik, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a promis lundi d'écouter humblement, a-t-elle dit, les électeurs au lendemain de la victoire écrasante des candidats pro-démocratie aux élections locales. Et d'autre part, Donald Trump, encore lui, a promulgué mercredi une loi qui soutient le camp pro-démocratie à Hong Kong. Cette résolution avait été adoptée il y a une semaine à une écrasante majorité par le Congrès. Retour dans ce territoire avec Stéphane Lagarde.
Pékin se serait bien passé de ce cadeau de Thanksgiving. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a immédiatement fait part de ses profonds regrets, estimant que cette loi interférait dans les affaires intérieures de Hong Kong et envoyait un message erroné aux manifestants. La loi aujourd'hui ratifiée du bout du stylo par Donald Trump, mais approuvée par une majorité des sénateurs, est l'aboutissement d'un combat de longue haleine pour le camp pro-démocrate à Hong Kong. Merci au Congrès des États-Unis qui s'est battu avec force depuis 5 ans pour faire passer cette loi, se félicite ce jeudi la chanteuse Denise Ho. Sans le sacrifice et la détermination des Hongkongais, rien n'aurait été possible, ajoute la passionnariat du mouvement d'opposition, faisant allusion notamment aux manifestants et aux manifestantes qui, le 8 septembre dernier encore, défilaient avec des drapeaux américains dans les rues de Hong Kong.
Nous espérons que le gouvernement américain adoptera la loi pour aider les Hongkongais. Les États-Unis sont l'une des plus grandes puissances et cela aura un impact pour la suite.
Un impact sur la suite, la loi exige du président des États-Unis qu'il examine tous les ans le statut commercial favorable à la région administrative spéciale et puisse le révoquer si les libertés sont menacées à Hong Kong. Les autorités chinoises, de leur côté, ont promis des représailles sans en donner les détails.
Et la Chine a réagi avec colère jeudi à la promulgation par le président américain de cette loi. Pékin a qualifié ce texte d'abomination absolue. Fin de citation. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sedik Abba. Avant de parler de la situation au Sahel, donc un mot de commentaire sur l'Afghanistan précisément, sur ce voyage surprise de Donald Trump en Afghanistan.
Absolument. Et il y a un lien, même s'il n'est pas évident. L'expérience américaine en Afghanistan, après 18 années de conflits ininterrompus, violents et meurtriers, les États-Unis parlent avec les talibans. Il y a eu une première série de pourparlers qui ont été interrompus. Maintenant, ils reprennent. Je pense que ça peut inspirer de la réflexion par rapport à ce qui se passe au Sahel aussi, puisque le débat existe aussi. Est-ce qu'il faut parler ou non aux djihadistes ? Moi, à partir de l'expérience que j'ai faite... Avec lesquels, justement. Peut-être que pour moi, aujourd'hui, toute la question n'est pas de savoir s'il faut parler ou non avec les djihadistes. J'ai la conviction qu'il faut parler avec certains djihadistes. Lesquels ? C'est ça la vraie question. À partir de l'expérience de Boko Haram qui a inspiré les livres que j'ai coécrit avec Maman Lawalid Andano, on voit qu'il y a une possibilité de dégarnir les rangs de certains mouvements djihadistes en prenant langue avec non pas les leaders, mais des corps intermédiaires, des combattants de base. Donc, est-ce que à partir de cette expérience américaine en Afghanistan, ça n'inspire pas une réflexion aussi au Sahel pour voir si, oui ou non, il faut parler avec les djihadistes, parce que certains officiels n'osent pas assumer, mais ils disent que peut-être que faute de solution militaire, faute de pouvoir écraser militairement les djihadistes, il faut parler avec certains d'entre eux sans renoncer à les combattre.
Alors, il faut, à ce niveau de l'émission, maintenant, Sedik, rappeler ce qu'est Boko Haram pour éviter les confusions avec ce dont on va parler dans un instant, au Sahel, au Mali notamment. Boko Haram, dans quel état est cette organisation aujourd'hui ?
Boko Haram sévit dans le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, c'est le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Donc, c'est plus en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, parce que les mouvements djihadistes du Sahel opèrent au Niger, dans l'ouest du Niger, dans le nord-ouest du Niger, sur la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Et puis, c'est dans cette zone qu'ils sont. Et là-bas, il y a toute une kyrielle de mouvements djihadistes. Boko Haram se trouve plus en Afrique centrale, dans le bassin du lac. Et le projet de Boko Haram, même si Boko Haram a fait par la suite, en 2015, allégeance à l'État islamique pour devenir la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt dans cette partie du continent que Boko Haram opère. Et Boko Haram, au début, était parti sur le principe, toute son idéologie, c'était le rejet de l'école occidentale. L'école occidentale est un péché, c'est ça, ça veut dire en langue Haoussa Boko Haram. Mais quand Boko Haram dit l'école occidentale est un péché, ça, il ne parle pas des murs physiques seulement. Il impute à l'école occidentale un certain nombre de problèmes de gouvernance qu'on voit dans les pays de cette sous-région. Donc c'est ça un peu l'idéologie de Boko Haram. Et ce qui fait, je pense, le lien, l'élément commun entre les deux, c'est la terreur, c'est l'assassinat des personnes, c'est les bombes, c'est un certain nombre de choses. Mais sinon, il y a effectivement une distinction géographique, opérationnelle à faire entre les groupes djihadistes de cette partie.
Que ce qui frappe en lisant votre livre, on en a déjà parlé il y a quelques semaines dans cette émission, c'est vous faites le portrait d'un certain nombre de repentis, enfin d'anciens djihadistes. Ce qui frappe, c'est la diversité de leur profil, si j'ose utiliser ce mot.
C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Il y a dans Boko Haram des combattants qui ont adhéré à l'idéologie religieuse de Boko Haram. Boko Haram est venu dans leur village, a fait un prêche. Et ils ont trouvé le discours de Boko Haram séducteur. Donc, ils sont allés en conscience, en âme et conscience, ils ont décidé de suivre Boko Haram. Il y a, de l'autre côté, des gens, des personnes qui ont été embrigadées, comme cette jeune fille dont on parle dans le livre, qui, en revenant du champ familial, a croisé les gens de Boko Haram, qui l'ont embarqué de force. Ou ce tailleur chez qui Boko Haram vient faire de la retouche qui ont décidé de dire, bon, puisque jusqu'ici on vient te voir, viens dans nos rangs, maintenant qu'on t'aura en permanence, tu vas travailler pour nous. Donc, ils ont été embarqués par la force. À côté de ces deux catégories, il y a une troisième catégorie, c'est des gens qui sont partis dans Boko Haram par opportunisme. Ils ont entendu dire, ils ont vu quelques personnes revenir avec le butin de guerre de Boko Haram. Ils se sont dit, bon, il y a moyen de faire du business. Que Boko Haram, c'est peut-être une occasion de faire du business. On va y aller. Mais en lisant le livre, on s'en aperçoit. La communauté de ça, c'est la désillusion à la fin. La désillusion, le choc. Parce que ceux qui sont partis pour une raison idéologique s'aperçoivent que dans la pratique de Boko Haram, il n'y a aucune place à la religion. Les personnes innocentes sont assassinées, des personnes sont égorgées, et même la pratique religieuse, au lieu de retrouver des instituts ou de retrouver des petites écoles où les gens vont perfectionner à l'apprentissage du Coran, ils trouvent plutôt des centres d'instruction au maniement des armes. Et ceux qui sont allés en pensant qu'ils peuvent s'enrichir aussi s'aperçoivent que, en réalité, le butin de guerre, lorsqu'il est ramené, il profite au chef. Il ne profite pas aux combattants de base. Et enfin, ceux qui sont partis dans Boko Haram, qui ont été embrigadés, eux, de tout temps, le seul enjeu pour eux a été comment en sortir, comment quitter le mouvement.
Et il faut insister un instant, mais insister quand même, Sidi Kaba, sur le sort réservé aux femmes.
Ah oui, ça c'est absolument. Et d'ailleurs, le livre, l'intérêt aussi du livre, c'est que à partir du livre, on a quelques clés pour mieux comprendre le sort des filles de Chibok, par exemple. Oui. On sait que lorsque les filles de Chibok ont été enlevées en avril 2014, il y a eu une mobilisation planétaire. Madame Obama, les chefs d'État occidentaux, en Afrique, sur tout le continent, il y a eu une vive émotion, il y a eu une mobilisation planétaire. Mais on n'a jamais réussi à retrouver ces filles. À partir des témoignages que nous avons recueillis à Goudoumaria, on a pu comprendre pourquoi ces filles
n'ont pas été... Goudoumaria, qui est le centre de rétention, en fait, de ces
absolument.
Anciens...
Absolument. Goudoumaria, c'est le centre d'accueil. Des repentis, des ex-combattants de Boko Haram. Goudoumaria se situe à 1200 km au sud-est de Niamey, au Niger. Et c'est dans ce centre qu'il y a trois composantes. La déradicalisation, pour ceux qui sont partis par l'idéologie religieuse, la formation professionnelle et la réinsertion sociale après cette formation professionnelle. Donc, je disais que, par exemple, pour les filles de Chibok, on n'a jamais pu les retrouver parce qu'elles ont été mariées de force. Elles ont suivi leur mari au gré des affectations, entre guillemets. Elles se sont retrouvées au Niger, elles se sont retrouvées au Tchad, elles se sont retrouvées au Cameroun, au gré de différentes affectations. Et puis, il y a à côté de ça, on a pu le voir à partir des témoignages, les filles, les femmes qui sont parquées à la merci des combattants, qui peuvent les acheter, qui sont vendues bon, aux plus offrants parmi les combattants. Donc, il y a effectivement un sort spécifique qui est réservé aux femmes. Et il y a aussi, dans le livre, on s'aperçoit pourquoi Boko Haram privilégie justement l'enlèvement des femmes. Quand ils viennent, ils ont enlevé les filles de Chibok qui étaient environ 200. Ils sont revenus enlever des lycéens de Debchi aussi, dans le centre, dans le sud-est du Nigeria. Donc, il y a les filles et les femmes sont particulièrement ciblées parce que le mouvement leur réserve un sort à part.
Une semaine d'actualité.
Et arrêtons-nous en France, ou presque maintenant, Sedy Kaba, France, où les agriculteurs se sont fait entendre mercredi à Paris, notamment une concurrence jugée déloyale et un sentiment de ne pas être apprécié par les Français. Le malaise est profond, d'autres manifestations sont prévues. Prise en charge psychologique des agresseurs, introduction de l'emprise dans le code pénal, renforcement du numéro d'urgence de secours 3919. Le Premier ministre Édouard Philippe a clos lundi le Grenelle contre les violences conjugales en présentant un plan à forte tonalité juridique, espérant qu'il provoque un électrochoc. Rappelons que depuis le début de l'année 2019, depuis le début de cette année, donc en France, au moins 117 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, selon un décompte et une étude au cas par cas mené par l'AFP. Revenons maintenant sur la mort des soldats français au Mali, Sedy Kaba. 13 militaires donc de la force Barkhane ont péri lundi soir dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth. C'était en 1983 qui avait fait 58 morts. Franck Alexandre.
Ces quatre derniers jours, les groupements commandos parachutistes traquaient des terroristes de l'État islamique au Grand Sahara dans l'un de leurs repères, la vallée d'Eringa au sud d'Indeliman. Ce lundi, en fin d'après-midi, débute l'affrontement contre un pick-up. Mais ne pouvant franchir l'Oued et aller au contact, les soldats français demandent un appui aérien. Deux Mirage 2000 et trois hélicoptères arrivent sur zone dans l'obscurité absolue d'une nuit sans lune. François Lecointre, chef d'état-major des armées.
Ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Il s'agit d'une opération difficile par nuit noire, nuit de niveau 5. C'est un accident qui se passe lors d'une opération de combat de reconnaissance avec des hélicoptères qui manœuvrent en recherchant et en menant cette reconnaissance pour détecter l'ennemi au sol. Les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due à une collision en vol. L'information est confirmée rapidement après par le Tigre qui reste en vol et qui confirme qu'il y a eu collision entre le Cougar et l'un des deux Tigres.
Une fois la zone sécurisée, les militaires de Barkhane ont pu ce mardi récupérer les corps de leurs 13 camarades ainsi que les boîtes noires des deux appareils tombés sur le sol malien.
Cette disparition de 13 soldats français a fait ressurgir la question de l'objectif de cette mission, on en reparlera tout à l'heure. Et face aux doutes exprimés ça et là, écoutez ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale mercredi.
L'utilisation des forces armées est toujours politique, toujours. Ces objectifs politiques, ils ont été affirmés et réaffirmés. Éviter la déstabilisation d'États qui sont des États partenaires et amis. Faire en sorte qu'avec le concours de la France, et au premier chef de la France, de nombreux partenaires européens et des États de la région, nous soyons capables d'obtenir la stabilité et la sécurité pour garantir le développement. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, Ces regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sédic Abba, on va quitter un instant Boko Haram, Sédic, pour parler de cette région du Sahel, cette zone dite des trois frontières. Alors, il faut préciser qu'hier matin sur notre antenne, le général François Lecointre, que l'on vient d'entendre, d'écouter, le chef d'état-major de l'armée française, disait qu'il n'y avait pas d'action djihadiste à l'origine de cette collision d'hélicoptères. Un de nos auditeurs écrit ceci, lui doute de cette thèse de l'accident, et il écrit ceci, avec toute l'expertise des armées étrangères sur le continent, comment comprendre cette collision de deux hélicoptères ayant coûté la vie donc à 13 soldats français? Donc il a l'air sceptique. Un autre auditeur nous dit qu'il ne croit pas du tout qu'il s'agisse d'un accident, donc on peut dire tout et n'importe quoi, évidemment. Quel est votre regard sur ça? D'abord, on va parler de la stratégie dans un instant, mais sur cette situation.
Non, je pense que il y a aujourd'hui, il s'est développé une sorte de complotite. Oui. Les gens voient que le complot partout, pensant que aucun événement, même lorsqu'il est évident, ne suffit à convaincre un certain nombre de personnes. Je peux comprendre le scepticisme, mais en l'occurrence, moi, ma conviction, c'est que il y a bien eu cet accident d'hélicoptère, parce que ça ne s'invente pas, on peut le voir, ça a été, de ce point de vue, je n'ai pas le moindre doute. Je pense que c'est peut-être un peu la situation au Sahel avec ces va-et-vient qui est devenue une nébuleuse. Et cette situation de confusion peut amener les gens à être sceptiques, à douter de tout et de rien. Mais sur cet accident, moi, je n'ai pas le moindre doute.
Alors, essayons de faire un point. Il y a 4500 militaires français actuellement dans cette région. Alors, une région très étendue, hein, qui va de la Mauritanie au Tchad. Donc, c'est une bande très, très, très large. Il y a également la MINUSMA de son côté, hein, la Force des Nations Unies, dont le mandat a été renouvelé en juin dernier pour la cinquième fois. Et il y a le G5 Sahel aussi qui est à l'œuvre. Et face à ces militaires, essentiellement les militaires français, donc, il y a ce que vous disiez, une nébuleuse. Est-ce qu'on peut essayer de définir cette nébuleuse?
Oui, et à l'heure actuelle, dans la zone de trois frontières où l'accident s'est produit.
Donc il faut rappeler, Mali, Burkina Faso, Niger.
C'est ça. La zone de trois frontières, justement, c'est la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est dans cette zone que les mouvements djihadistes sont les plus actifs. Les trois grands mouvements djihadistes qui sont aujourd'hui les plus actifs au Sahel, l'État islamique dans le Grand Sahara de Abu Ali al-Sahraoui, ACMI, Jamel Okocha, et enfin il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Agali. Ces trois mouvements sont très actifs dans cette partie de l'Afrique, et c'est dans cette partie du Sahel justement que, si on se souvient, en octobre 2017, il y a eu une opération contre une patrouille américano-nigérienne où les forces spéciales, oui, quatre forces spéciales américaines avait été tué aux côtés de quatre soldats nigériens. Donc c'est la zone où les mouvements djihadistes sont les plus actifs, et c'est la zone où ils profitent de la possibilité de se cacher. Parce que le Sahel, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il y a des parties, il y a des petites enclaves où il y a beaucoup d'arbres où on peut se cacher. Et justement, dans cette frontière-là, il y a beaucoup d'arbres où les différents mouvements djihadistes arrivent à se cacher. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, que les armées qui sont à lutte contre les mouvements djihadistes essaient de mettre l'accent. Parce que c'est là que, en mai dernier, le Niger a perdu 28 soldats dans le cadre d'une opération de poursuite de ces mouvements djihadistes-là. Donc, on peut comprendre justement que la France ait choisi, après les revers, après en tout cas les attaques que l'armée malienne a subies, les attaques lourdes en peur humaine, récemment, la France a choisi de reprendre l'initiative et d'engager une opération anti-djihadiste. On peut comprendre que dans le cadre de cette opération-là, il y a eu cet accident d'hélicoptère. Je pense que pour être complet, il faut rappeler que le Mali, quand même, c'est le mouvement, l'opération des Nations Unies la plus meurtrière depuis la première opération des Nations Unies en 1948. Il n'y a jamais eu une opération aussi meurtrière, parce que à ce jour-là, il y a au moins 200 casques bleus qui ont été tués entre 2013 et 2019.
Il faut rappeler que la MINUSMA, c'est à peu près 15 000 soldats et policiers.
Et policiers, hein.
Alors, il s'est dit qu'une question se pose donc plus que jamais désormais. Quelle stratégie adopter au Sahel? Avant d'y répondre, partons pour Bamako, où Serge Daniel nous a parlé hier du sentiment anti-français qui se développe peu à peu dans une partie de la population du pays.
Lorsqu'on parle de la France aujourd'hui à Bamako, Ségou, Sikasso ou encore Gao, les oreilles se dressent et on voit tout de suite l'opération militaire française Barkhane est là. Les Maliens ne sont pas du tout contents, comme cet étudiant.
Ce que je pense de la force Barkhane, il ne nous aide pas.
Pour bon nombre de Maliens, si Paris veut, ces troupes ici sur place peuvent vaincre les terroristes et permettre à l'armée malienne de reprendre en main Kidal, contrôlée toujours par les ex-rebelles.
Kidal, la force Barkhane est là-bas, mais l'armée malienne n'est pas là. Pourquoi? Nous voulons que notre armée soit à Kidal.
Et au moment où la colère gronde, monte, d'autres Maliens interrogés souhaitent même le départ des militaires français s'ils ne vont pas plus au charbon.
Nous Maliens, vraiment, on est fatigués maintenant. S'il ne veut pas nous aider, pas seulement force, il peut partir.
Ce diplômé sans emploi va plus loin.
Ils ne font pas le job, mais les mandats, ça c'est une histoire. Je sais que tôt ou tard, la population va se révolter contre eux, quoi.
Mais certains ici relativisent et tiennent à expliquer ce qu'ils entendent par sentiment anti-français.
Non, il n'y a pas de sentiment anti-français.
Il y a quoi alors?
On critique seulement leur manière de travailler.
Alors sur la stratégie future française ou européenne au Sahel, donc écoutez ce qu'en dit notre spécialiste des questions de défense. Retrouvons donc Franck Alexandre.
Si ces dernières années, la force Barkhane a évolué quantitativement, son mandat et son articulation n'ont subi aucune refonte. Parallèlement, les groupes terroristes armés, comme l'État islamique au Grand Sahara ou la Katiba Massina, n'ont cessé de prospérer. Les lignes doivent bouger, mais les options ne sont pas infinies. La France peut-elle envisager, par exemple, de faire grossir son dispositif? Peu probable, tant les armées opèrent déjà à l'extrême limite de leur capacité. Autre option déjà largement évoquée par la ministre des Armées, Florence Parly, celle d'une européanisation du contingent avec le déploiement prochain de forces spéciales européennes. Elle a un intérêt politique pour la France qui ne veut plus être seule au Sahel et ne veut pas donner le sentiment d'y mener sa guerre. Cela permettrait aussi au président Macron de construire la défense européenne qu'il appelle de ses voeux. Dernière option, celle de la formation des armées partenaires qui a déjà pris corps avec le G5 Sahel et l'amélioration de la gouvernance. Et c'est peut-être là le point faible de Barkhane, une incapacité à user de l'outil militaire comme d'un levier sur la politique locale, une option longue et complexe alors que des résultats rapides et tangibles sont attendus.
Sedi Kaba Pironne qui nous écoute à Bouaké en Côte d'Ivoire donc écrit ceci: la situation au Sahel, que pensez-vous de la polémique autour de la force française au Mali? Je ne sais pas s'il y a une polémique, mais en tout cas, que pensez-vous de ce sentiment anti-français qui est réel chez certains Maliens, pour ne parler que des Maliens?
Oui, je pense qu'il y a des éléments d'incompréhension qui ont nourri ce sentiment anti-français. Le premier élément, c'est la sanctuarisation du Nord. Kidal, les Maliens aujourd'hui ont l'impression que Kidal a été sanctuarisé par la France au profit du MNLA, du HCUIA, et que comme l'armée malienne n'a pas accès, la responsabilité de la France c'est d'avoir arraché entre guillemets cette partie du territoire malien aux mains des autorités officielles. Donc il y a ce premier élément. Il y a aussi un deuxième élément, c'est que beaucoup de Maliens ne perçoivent pas encore la valeur ajoutée de Barkhane par rapport à la force. Et ils se disent que comment se fait-il que Barkhane est présent, la force française est présente.
Qui avait succédé à l'opération Serval, hein, il faut le rappeler. Barkhane et élargit son
Janvier 2013, on s'en souvient, Serval est lancé pour arrêter l'avancée des djihadistes qui sont à Konan sur le reste du Mali. Et à partir de 2014, août 2014, Serval passe le relais à Barkhane. Et je pense personnellement que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un malentendu, parce que quand Serval devient Barkhane en août 2014, on lui a donné le mandat de combattre le terrorisme sur une bande que vous avez rappelée de 3 millions de kilomètres carrés. C'est 6 fois le territoire français.
Avec 4500 militaires français.
Quelle que soit la capacité, tous les stratèges le savent, le disent d'ailleurs, quelle que soit la qualité de la formation, le matériel, c'est quasiment impossible de contrôler 3 millions de kilomètres carrés avec 4500 personnes. Donc il y a eu à ce niveau-là le malentendu. Et aujourd'hui, comme les Maliens ne voient pas la valeur ajoutée de Barkhane par rapport aux efforts qui sont faits par l'armée malienne, ça nourrit le fait que Barkhane ne fait pas autant qu'elle aurait pu. Donc ça alimente aussi le sentiment de colère. Donc c'est tout ça mis ensemble, à mon avis, qui explique aujourd'hui ces appels au départ de Barkhane, ces apports au départ de troupes étrangères. Et peut-être que la France voudrait justement sortir de ce tête-à-tête en lançant l'opération Takuba, qui, de mon point de vue, n'est peut-être pas encore la solution. Parce qu'à mon avis, moi, je pense que il faudrait, ce qui a manqué même par rapport à Barkhane, à Serval, la montée en puissance des armées nationales. Si les armées, au moment où, en même temps que Barkhane et les forces françaises continuaient à combattre les terroristes.
Parce que l'opération Barkhane est considérée et vue aussi comme une opération avec les armées nationales. C'est là c'est que ça. Le bas blesse, en
oui,
quelque sorte.
Oui, mais il n'y a pas eu suffisamment, le volet formation et équipement n'a pas été suffisamment articulé. S'il y a eu, comme il est dit, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Mali, au Burkina ou au Niger. Donc, parallèlement à la poursuite de la lutte contre les djihadistes, il aurait fallu, à mon avis, qu'il y ait une montée en puissance des armées nationales à travers la formation et l'équipement. Et sur ce point-là, aujourd'hui encore, beaucoup d'armées de cette région du Sahel ne peuvent pas faire de combat de nuit parce qu'elles n'ont pas l'équipement adéquat. On aurait pu, à mon avis, leur fournir l'équipement et la formation. Je sais qu'il y a, par exemple, la mission européenne de formation qui a 600 personnes au Mali qui essaie de former, mais il faut faire davantage parce que la solution ne viendra que de la montée en puissance de ces forces-là sur le plan militaire, mais aussi il faut articuler le développement et la solution politique, parce qu'on n'a pas, on n'en a pas encore parlé, mais l'accord d'Alger a prévu un certain nombre de dispositions qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Et là, les torts sont partagés. Du point de vue de, quand on s'assoit à Paris, on a l'impression d'incriminer que la partie officielle malienne. Mais les mouvements, les groupes armés aussi ont leurs responsabilités. Par exemple, il est convenu dans l'accord d'Alger que le groupe armé dépose leurs armes. Il y a eu 8 sites d'encantonnement dédiés à l'accueil de ce groupe. Et ces sites-là, aujourd'hui, ne sont pas fréquentés.
En tout cas, il faut rappeler que les armées maliennes et nigériennes ont déjà payé un lourd tribut à ces combats. Hein. Il y a eu beaucoup de soldats victimes. Il faut aussi s'interroger sur l'Europe, le rôle de l'Europe. On entendait la nouvelle commissaire, présidente de la Commission européenne tout à l'heure, au début de l'émission. Les Français sont bien seuls. Hein.
Oui, il faut le dire. Et aujourd'hui, je pense que Il y a quelque chose quand même, la position française a un mérite, c'est que la sécurité du monde, du reste du monde, a commencé par l'Europe, se joue au Sahel. Il ne faut pas considérer ça comme une périphérie, que c'est loin de Madrid, que c'est loin de Lisbonne. Mais à partir du moment où les groupes djihadistes s'implantent durablement au Sahel, ils vont menacer la sécurité de l'Europe, la sécurité du reste du monde. C'est pour cette raison qu'il faut venir en aide à ces pays-là, les aider à résister, les aider à venir à bout de cette menace. Parce que si ces pays s'effondrent, c'est la sécurité du reste du monde. Et il faut que cette perception-là arrive encore à gagner d'autres pays européens. Il ne faut pas que ce soit la France seule qui le comprenne. Parce que l'inconvénient que ce soit la France seule, c'est que les gens vont avoir le sentiment qu'on est toujours dans le tête-à-tête entre la France et ses anciennes colonies. C'est pour cette raison que d'autres pays doivent venir. Et s'ils ne veulent pas s'engager militairement, ils peuvent s'engager sur le plan de développement. Par exemple, l'Allemagne peut accompagner le développement.
C'est ce qu'elle fait déjà un petit peu, mais à part l'Allemagne et deux ou trois pays, on ne peut pas dire qu'il y a une action commune des Européens.
Non, même des pays comme la Grande-Bretagne, qui ont l'Angleterre a quand même des moyens militaires qu'elle peut actionner. Mais pour l'instant, ces pays considèrent que c'est beaucoup trop loin le Sahel et que ils n'ont pas intérêt à y aller. Mais à mon avis, comme je l'ai dit, ça pose le problème de la sécurité internationale. C'est pour cette raison qu'il faut faire davantage, il faut venir en aide à ces pays-là.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc continuez bien sûr à nous écrire. Merci pour vos messages. J'en cite quelques-uns, quelques auditeurs comme chaque semaine. Et je dis bonjour aujourd'hui à Babacar, à N'Djamena, à Gaborone, Daba, à Pala, également au Tchad. Bonjour à Mamadou Ouri, à Labé en Guinée, à Jospin, à Yaoundé. Un salut à Moses, à Kinshasa, à Emma, à Antananarive et à Daouda, à Port-Gentil.
Sept jours en Afrique.
Direction la République démocratique du Congo maintenant, après les inondations qui ont meurtri la capitale Kinshasa et ses environs. Reportage mercredi de Pascal Moulagoua.
Regard perdu sous une bicoque aux abords d'une terre marécageuse, Caroline craint pour sa vie au lendemain d'inondations qui ont emporté sa maison. Rescapée, elle restait là, sur place, sans savoir où aller.
Il n'y a plus d'espace de vie ici, mais j'attends quand même, car je n'ai nulle part où aller vivre. On a tout perdu. On a échappé à la mort ici, c'est une chance qui ne se présente pas deux fois. Je ne vais pas rester ici, mais il faut qu'on nous trouve d'autres lieux.
Au-dessus de son habitation de fortune, des maisons sont érigées sur des pentes glissantes. Des 300 mètres carrés de la concession des Clémentines, il n'en reste que la moitié après les glissements des terrains. Les murs de la maison sont fissurés. Cette sexagénaire et son fils sont inquiets.
J'ai très peur, on ne dort pas. Là, il y avait un trou, c'est parti. Vous ne voyez pas même des sacs ici par terre.
On ne sait pas aussi qu'on va faire combien de jours ici pour qu'on puisse partir. Bientôt, là, la maison va couler. Ça reste à quelques mètres. Ça va.
Mais pour quitter les lieux, les occupants posent des préalables.
Pour aller où ? Juste, il faut que l'État vienne nous aider en construisant d'autres sites quelque part.
Sinon ?
Nous allons tous mourir.
Pour l'hôtel des villes, ces sites doivent être rasés. Les autorités locales s'en remettent au gouvernement central qui disposerait, selon elles, de plusieurs espaces encore libres dans la capitale.
Et sachez qu'au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où des manifestations violentes dénoncent depuis quelques jours, une semaine à peu près, la passivité de l'ONU et des autorités face aux tueries. Selon ces manifestants, partons maintenant pour la Guinée-Conakry, Sédikaba, où il y a eu de nouvelles manifestations contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Depuis un mois et demi, et malgré l'emprisonnement de ses principaux leaders, le FNDC, qui regroupe l'essentiel de l'opposition et de la société civile, bat le pavé en quelque sorte contre ce projet de référendum. Des manifestations qui ont déjà fait une vingtaine de morts selon l'opposition, mais cette fois les organisateurs ont décidé de se conformer à l'itinéraire autorisé par les autorités et la marche s'est déroulée sans incident. Carole Valade.
Ils auront marché toute la journée au son du reggae, le long des 13 km qui séparent le rond-point de la tannerie du stade du 28 septembre. C'est un cortège plus élastique et moins dense que les fois précédentes, mais composé de militants toujours aussi déterminés.
Je ne suis pas fatiguée. Chaque fois que le FNDC lance un appel, je sortirai. C'est le système qu'il faut déraciner pour qu'on ait une nouvelle Guinée.
C'est la cinquième fois que le FNDC appelle à sortir. On sent au bout d'un moment qu'il va y avoir un certain ralentissement.
La seule voie de recours, de protestation, d'expression de notre mécontentement, ce sont les manifestations. On n'a pas d'autre voie de recours.
Aucun incident signalé sur le parcours, notamment grâce au service d'ordre qui maintient la distance entre les forces de sécurité et les manifestants. Pendant ce temps, les opérations de recensement se poursuivent en vue des législatives prévues pour février 2020.
Ils veulent distraire les gens avec les élections. On ne se laissera pas distraire.
Vous allez voter aux législatives ?
Personnellement, c'est un droit citoyen, je vais voter.
Et pourtant, vous disiez que c'était une diversion.
C'est une diversion parce qu'il a violé le calendrier. Depuis longtemps, il devait organiser des élections législatives. Il n'a pas fini d'installer le conseil de quartier. On est vigilant parce que c'est un devoir, c'est un droit citoyen.
Lors d'une tournée en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée, qui a pris des airs de campagne électorale la semaine dernière, le président de la République, Alpha Condé, a exhorté les nouveaux électeurs à se faire recenser.
Dernière étape de notre voyage pour cette semaine, c'est Dakar, au Sénégal. Les obsèques de Colette Senghor ont eu lieu jeudi. L'ancienne première dame, décédée à l'âge de 93 ans, a été inhumée aux côtés de Léopold Sédar Senghor au cimetière de Bel Air, dans la capitale du Sénégal. Les hommages se sont succédés dans son pays d'adoption. Un registre de condoléances est ouvert à la fondation Senghor. Donc, reportage William de Lesseux.
Une photo un peu floue de Colette Senghor est agrafée sur la couverture du registre. La première dame y est souriante à l'intérieur de la maison de Verson en Normandie. Sur les pages du cahier, des officiels, des ambassadeurs ont écrit quelques lignes pour lui rendre hommage, mais aussi des admirateurs de Léopold Sédar Senghor. Pour Franck Herman Ekra, critique d'art ivoirien, Colette Senghor était la muse du président poète.
Celle qui lui permet d'exprimer sa solitude à travers les lettres d'hivernage, qui sont un recueil de poèmes qu'il lui dédie. Et c'est une femme tout en discrétion, en organisation. Elle avait beaucoup d'humour. Donc c'est une femme en contraste vis-à-vis d'un homme comme Léopold Sédar Senghor. Ce couple est un couple exemplaire.
Ensuite, moi-même, j'ai signé la deuxième page.
Raphaël Ndiaye, le directeur de la Fondation.
Ce livre de condoléances fait partie des actes qu'il fallait poser. Si Senghor a bâti ce pays de façon essentielle pendant une vingtaine d'années, c'est pour avoir été accompagné de façon très rapprochée et discrète par son épouse Colette, qui s'est faite sénégalaise avec les Sénégalais.
Colette Senghor sera inhumée aux côtés de son mari et de son fils, Philippe Maguilène Senghor.
Colette Senghor, que vous aviez rencontré, Sidi Kaba?
Oui, en décembre 2001, lorsque le président Senghor est décédé, je travaillais encore pour l'agence panafricaine de presse qui m'avait dépêché justement à Caen et j'ai eu la chance d'aller à la résidence de Madame Senghor qui était encore sous le choc du décès de son mari qui, malgré tout, avait reçu un certain nombre de personnes dont moi-même. Et je dois dire que au-delà de l'hommage aujourd'hui qui est fait de partout à Madame Senghor, on lui prête d'avoir joué un rôle important dans la décision de Senghor de quitter volontairement le pouvoir en 1980. Elle a été première dame du Sénégal de 60 à 80 pendant 20 ans. Mais Senghor avait quitté le pouvoir en 1980. Il y a 39 ans encore, un chef d'État en Afrique a été capable de quitter volontairement le pouvoir. Rien ne l'empêchait de rester, mais il avait choisi de quitter le pouvoir. Et pour ne pas gêner celui qui lui a succédé, Senghor s'était installé en Normandie, ici à Caen. Je pense que ça doit inspirer aujourd'hui ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir et qui veulent y rester en faisant tuer leurs compatriotes.
Alors, c'est pas pour ça que je vais vous poser une question sur la Guinée, Sidi Kaba. Rapidement, depuis les dernières manifestations d'il y a quelques jours, les leaders du FNDC ont été libérés, semble-t-il, par la justice. Un mot sur ces manifestations qui se répètent à Conakry.
Oui, je pense que la Guinée est rentrée dans un engrenage dont elle ne peut sortir que par la responsabilité de ses dirigeants. Aujourd'hui, on sait le problème essentiel, c'est cette question de troisième mandat. Il appartient à la classe politique guinéenne de faire preuve de sursaut et de trouver la solution qui permette à la Guinée de s'occuper de ses urgences, parce qu'en Guinée, tout est urgent. On a vu, il n'y a pas longtemps, un éboulement à Conakry, les routes, etc. Donc la Guinée a d'autres défis et il appartient à sa classe politique aujourd'hui de faire preuve de sursaut, de trouver une solution à la crise politique et d'amener la Guinée vers le développement.
Merci Sidi Kaba. Il faut absolument lire Voyage au cœur de Boko Haram, surtout ces jours-ci en ce moment, dans le contexte que l'on vient d'évoquer. Enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, c'est un livre publié aux éditions L'Armatan. Merci Sidi Kaba.
C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de venir à cette émission.
Et à très bientôt donc. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. L'émission vous sera présentée samedi prochain par Éric Chorin. Nous allons vous retrouver demain pour le magazine Idée, celui qui interroge ceux qui pensent le monde d'hier et d'aujourd'hui. Et nous vous proposerons une rencontre avec Carlo Ossola. Il est professeur au Collège de France et avec lui nous parlerons, figurez-vous, c'est dit, de Dante. Vous savez, le poète, l'auteur de la Divine Comédie. Nous parlerons aussi de ces petites vertus qui nous rendent la vie plus belle. À ne pas manquer donc, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.